Vous écoutez Radio Campus, il est 18h.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Oreille au Poste sur Radio Dijon Campus. Aujourd'hui, nous partirons explorer le premier roman de Pascal Honvaux, qui est enseignant-chercheur en physique à l'UB et à l'UFC. Et donc ce premier roman est paru en mars dernier. Chute libre, c'est le titre de ce roman, retrace l'itinéraire mouvementé et brillant de la thèse au prix Nobel de physique d'Alexandre Dupertuis. Il raconte la vie de ce brillant chercheur qui travaille sur la mise au point d'un ordinateur quantique. Mais surtout, on va retrouver son parcours personnel. Depuis sa vie d'étudiant, vous l'aurez compris, ses premiers amours jusqu'à ses dernières heures, en passant donc par cette ascension fulgurante qui l'a mené bien sûr au prix Nobel, mais pas que, il y aura même les coulisses du pouvoir, avant de connaître une déchéance brutale et violente. Tant pis pour lui, on en parlera donc tout de suite avec Pascal Honvaux qui est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis maintenant, désormais, c'est un rendez-vous traditionnel. J'ai deux chroniqueurs à mes côtés, Maëlle et Dimitri. Et donc, avant de se plonger dans le roman Chute libre, je vous propose un petit point sur l'actu des engagements et des luttes avec Maëlle. Maëlle, cette semaine, tu nous parles de la tragédie qui a touché la France le 26 septembre dernier, une date qui restera gravée dans la mémoire de tous les Français. La mort de Jacques Chirac, bien sûr, c'est ça ?
Ah non, je pensais plutôt vous parler de l'incendie qui s'est déclaré à 2h40 du matin, le 26 septembre, au sein de l'usine Lubrizol, classée Seveso à Rouen. Mais je comprends ton erreur, France, car selon les médias, le 26 septembre 2019, ce n'est pas l'incendie à Rouen qui avait la priorité. Non, non, non. L'événement qui méritait de faire la une était bien la mort de Jacques Chirac. Sur BFM TV, où j'ai pu trouver un podcast diffusé plusieurs fois dans la journée, c'est la mort du président qui a monopolisé les quasi 3 minutes de rappel de l'info du 26 septembre. Et les JT du 20h de France 2, de TF1 et de LCI, à l'heure où tous les foyers étaient devant la télé, ont totalement ignoré l'incendie. Pas étonnant, vous me direz, qu'en France, où les plus de 75 ans représentent quasiment 10% de la population, que la mort d'un homme de 87 ans préoccupe davantage la population qu'une catastrophe écologique. Hein ? Les générations futures ? C'est qui ça ? Ou alors c'est peut-être parce que les grands patrons des médias ont quitté le lycée depuis trop longtemps et ont oublié ce qu'implique la directive Seveso. Et oui, parce que ça, justement, on l'apprend au lycée. Allez, petit rappel pour ceux qui auraient oublié. La directive Seveso, c'est une surveillance accrue des usines où sont produits et stockés des substances potentiellement dangereuses. En France, ça représente 1379 sites et au niveau local, c'est par exemple les dépôts pétroliers de Longwy qui se trouvent à quelques kilomètres du centre-ville de Dijon. Pourtant, toute la communication sur l'événement a largement affirmé que l'événement n'était pas si grave. Castaner précisait au lendemain des événements qu'il n'y avait pas de dangerosité particulière. Agnès Buzyn, elle, affirmait hier que les résultats d'analyse de toxicité étaient très rassurants. Et Sibeth Ndiaye, pour sa part, affirmait que la seule réaction rationnelle aurait été de rester sur place. En tout cas, c'est ce qu'elle aurait fait. Bah oui, quelle idée de céder à la panique. Une pluie d'hydrocarbures, c'est pas grand-chose. Mais alors, si l'État étiquette une usine comme particulièrement dangereuse et affirme, lors d'un incident à l'inverse, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quelle version de l'État sommes-nous censés croire ? Depuis la directive Seveso 2 en 96, l'accent a été mis dans les textes sur la communication et le droit de la population à l'information. Et oui, parce que selon l'article L214 du Code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques. Pourtant, il aura fallu attendre la mobilisation des Rouennais le 1er octobre, les vidéos et photos des habitants publiées sur Internet, une tentative d'intrusion au Conseil métropolitain le lundi suivant, avant d'avoir accès aux premières informations sur les substances toxiques stockées dans l'usine. Et pendant ce temps-là, nous ne rations pas une miette du retour sur la vie de Chirac, des hommes, des hommages et du deuil national.
Du coup, Maëlle, tout ça pour en venir où, du coup ?
Eh bien, je sais pas ce que t'en penses, France, mais moi, je trouve ça un peu incohérent. Parce que c'est que mon avis, mais il me semblait que l'urgence était davantage à la gestion de la crise écologique qui a touché Rouen qu'à faire l'éloge du président pas le plus honnête de l'histoire de la Ve République.
Puis lui, il était déjà mort, nous pas encore.
En même temps, je devrais pas trop m'étonner, et plutôt me replonger dans mes cours de sociaux. Et pour cause, cette disproportion dans le temps accordée aux différentes infos a déjà été décryptée par Chomsky en 92 dans Les médias et les illusions nécessaires. Un docu à revoir, dans lequel il a notamment comparé la manière dont les journaux américains ont traité l'information sur le génocide perpétré au Cambodge par le gouvernement communiste des Khmer Rouges et sur l'invasion du Timor oriental par les Américains.
Je crois que je devine duquel on a le moins parlé.
Bourdieu, lui, en 96, dans un ouvrage intitulé « Sur la télévision », montrait en quoi le traitement des informations futiles était tout à fait nécessaire aux médias. Elles permettent de faire vendre et surtout de ne pas parler d'autres choses plus importantes. Vous savez, c'est comme quand, de manière incessante, le débat sur le voile ou la légalisation du cannabis reviennent sur le devant de la scène médiatique. Enfin, après tout, c'est peut-être moi qui ai tort, c'était Jacques Chirac quand même, premier ex-président de la République à comparaître devant un tribunal et condamné à 2 ans avec sursis. Bon allez, j'arrête, je rentre chez moi lire Bourdieu et Chomsky afin d'y voir un peu plus clair. Et toi France, tu retiens quoi du 26 septembre ?
L'anniversaire de mon cousin, et sinon peut-être que le bruit et l'odeur. Merci oui. Maëlle en tout cas pour ta chronique. On va plonger du coup sans transition dans le premier roman de Pascal Onvaux, Chute libre. Donc Pascal, c'est votre premier roman, je viens de le dire, mais je crois que ça n'est pas votre première expérience littéraire si je ne m'abuse.
Alors, non, en effet. Donc, en fait, tout a commencé quand j'avais 14 ans, donc en 1983. Et donc, c'est arrivé suite à un incident. J'ai eu une cheville cassée. Et c'était au mois de juillet, cet été-là. Et je pouvais, bien sûr, ne pas bouger, pas faire de sport, de vélo, etc., comme d'habitude. Cette période. Et du coup, j'avais déjà écrit quelques petits poèmes entre 13 ans et 14 ans, on va dire. Et avec une machine à écrire de mon grand-père, donc j'ai commencé à taper les premiers poèmes que j'avais écrits. Et puis j'en ai écrit d'autres, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça a été le tout début, les premiers écrits que j'ai fait. Mmh. Voilà. Ensuite, au lycée, j'ai été... j'ai rejoint une revue de poésie, donc qui était parisienne, on va dire, qui est éditée sur Paris et distribuée sur Paris. Voilà. Et donc là, j'ai eu mes premiers poèmes publiés dans cette revue, enfin quelques poèmes publiés dans cette revue. Et ensuite, j'ai rejoint le comité éditorial de la revue. Voilà. Et ensuite, pour passer plus vite, donc une fois à la fac, avec deux amis, Manuel Bernier et Rémi Saglier, donc étudiant aussi en sciences. Hein, à ce moment-là, j'étais étudiant en sciences, maths, physique, chimie. Mm-hmm. Donc, on a créé une revue L'Aileron qui mêlait, outre toujours un peu de poésie, mais surtout des nouvelles. Donc ça a duré quelques années. Et puis ensuite, j'ai terminé, c'est lors de ma thèse de doctorat, en fait. Donc, j'ai créé une revue Nébuleuse. Nébuleuse, c'était son titre, voilà. Et est-ce que j'ai fait une thèse un peu en astrophysique, enfin physique moléculaire appliquée pour l'astrophysique, donc je l'ai appelée Nébuleuse. Et là, on a eu à l'époque des grands noms, des grandes plumes qui sont venues nous rejoindre, comme Hubert Reeve et puis d'autres auteurs, Michel Casset, Nicolas Pranzos, enfin qui ont édité des livres aussi par ailleurs eux-mêmes, quoi. Donc voilà un peu le parcours.
Et c'était plutôt donc dans la poésie, donc là c'est réellement Chute libre est vraiment votre premier roman.
Ah oui, c'est le premier roman, oui.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à la narration, au roman, à la fiction ?
Alors en fait, j'avais déjà écrit des nouvelles, donc certaines ne sont pas publiées du tout, ni dans un recueil ou quoi que ce soit. Et je me suis lancé dans un roman. J'avais l'idée de ce roman assez tôt et j'ai commencé en fait en 2006, donc soit à peu près une dizaine d'années après être enseignant-chercheur, quoi, après avoir eu mon poste. Donc j'ai respiré un peu, on va dire, et un peu plus, et j'ai pu commencer l'écriture de ce premier roman. mais qui a duré de 2006 jusqu'à à peu près 2016, donc une dizaine d'années. Voilà, et j'écrivais principalement pendant les vacances d'été, parce que mon métier de chercheur et d'enseignant ne me permettait pas trop, même dans les courtes vacances universitaires ou scolaires, quoi.
J'avais pas trop le temps. Il y a des copies à corriger, hein.
Voilà, notamment. Oui.
Il y a, du coup, j'ai l'impression, des points communs quand même entre le personnage principal, Alexandre Dupertuis, et vous, parce qu'au-delà de la physique, l'un et l'autre sont dans la physique. Lui, en plus, au début, je crois qu'il est un petit peu dans des concepts qui s'appliquent à l'astrophysique. Je fais la maline, mais bon, j'y connais pas grand-chose. Mais il a le goût pour la littérature, en particulier les surréalistes. Il y a d'autres choses inspirées de votre propre vie ou des éléments comme
alors,
ça
en
personnels
fait, comme tout premier roman, je pense, on met beaucoup de soi-même quand même par-ci, par-là. Bien sûr, l'histoire est complètement inventée. Ça, c'est...
Vous n'avez pas encore le Nobel, mais je vous le souhaite.
Voilà. le prix Nobel de physique est tombé aujourd'hui.
Oui.
Voilà. Et justement, à des astrophysiciens à qui il a été attribué aujourd'hui. Donc...
Oui, des éléments personnels, forcément.
Oui, voilà. Donc, j'ai voulu resituer déjà le premier roman dans... Oui. Bon, j'ai pris un physicien, mais ça aurait pu être un autre étudiant, même en lettres ou histoire, voilà. Mais bon, j'ai préféré partir des choses que je connaissais. Et puis, en effet, il a ce côté-là, quand il est étudiant, jusqu'à son post-doc. Après, il est pris par le tourbillon des travaux de recherche. Mais avant, en effet, il est amateur des surréalistes, il les lit, etc., poésie, les romans. Et ça, en effet, c'est ce que j'ai fait moi-même aussi. Oui.
Là, voilà. C'est ce côté partagé. Alors, ce roman, c'est une lettre, c'est presque comme un journal intime. Donc, avant tout, c'est l'intériorité du personnage qui vous a intéressé. Son témoignage, son récit intime, peut-être pour rétablir une vérité ou pour justement explorer les sentiments, la complexité.
Voilà, le décor, c'est en effet le monde de la physique, de la recherche en physique. Donc, depuis le début étudiant, thèse de doctorat, les premiers postes, les concours CNRS, enseignants-chercheurs, etc., les congrès, enfin voilà, tout ça, ça forme un peu la toile de fond. Mais le plus important, c'était l'itinéraire donc ça part à la soutenance de sa thèse, et on revient un peu, quand il est étudiant avant l'université, et jusqu'à la fin, si j'ose dire, et en passant par une ascension fulgurante qu'il mènera au prix Nobel de physique, il côtoiera les ministères, il a toute une histoire complexe dans son parcours, vis-à-vis des femmes aussi.
Oui, on va en parler un peu plus tard, oui. Et du coup, oui, mais finalement, là, c'est ce que je disais, il relate des choses, mais il a le besoin d'expliquer le in extenso ce qui s'est passé. Peut-être que peu de personnes le connaissent finalement intimement.
Vous parlez d'Alexandre Dupertuis.
Oui, tout à fait.
Ce livre, en effet, il le présente comme une lettre. En fait, c'est des écrits qu'il va laisser jusqu'à sa disparition. Et il souhaite témoigner aussi de cette souffrance qu'il a connue. Parce que c'est un être en fait qui était en souffrance permanente depuis le début.
Oui. Eh ben, on explorera le pauvre, hein, mais toutes ces souffrances, vous ne l'avez pas épargné. Hein. Puis alors, il y a les différentes strates qui s'accumulent, mais au moins, on ne s'ennuie pas. Mais juste avant, parce qu'il y aura ces danses, on aura matière à développer, je vous propose qu'on marque une première pause. Le titre, c'est La vie, et l'artiste, c'est Johann Papakonstantino.
Fait mal à l'âme, je me mets à tourner sur un monomane. Elle me prendra pour un mégalomane. Elle dit que je suis chèvre de métal. Je pense à tous les détails qui
C'était La Vie, un titre qui lance notre deuxième partie de l'Oreille au Poste sur Radio Dijon Campus et surtout qui va nous permettre d'accueillir Dimitri. Deuxième chronique pour Dimitri, comme tout à l'heure Maëlle. Tout de suite, son magnifique générique. Ah, si on retrouve le magnifique générique, voilà.
You can be do what we want to do.
Nous sommes un pays de race blanche.
Je n'ai jamais été corrompu par personne.
Vous voudriez donc que je m'appelle comment ?
Corinne. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
La République, c'est moi !
Parce que c'est notre projet !
Taisez-vous !
Bienvenue dans le monde de Ségolène Royal. Ségolène a 66 ans et vous la connaissez très certainement. Petite piqûre de rappel. Ségolène a un parcours politique aussi fourni que le répertoire de Céline Dion. Vous pouvez aller pisser, il y en a pour un moment. Elle a donc été députée, conseillère générale des Deux-Sèvres, ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, et présidente du conseil régional de Poitou-Charentes. Elle est actuellement ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique. N'oublions pas non plus que Ségolène est aussi arrivée deuxième à l'élection présidentielle de 2007, où elle avait recueilli 46,9% des voix au second tour face à l'homme politique qui a eu des problèmes avec la justice.
À Balkany.
Non.
Mélenchon.
Non.
Le Pen.
Non.
Strauss-Kahn.
Non.
Ferrand.
Mais non.
Cahuzac.
N'importe quoi.
Tapie.
Non plus.
Fillon.
Non.
Oh là là, moi j'abandonne, c'est trop dur, il y en a trop.
Ouais, non, mais France, tu peux faire un effort quand même.
Alors, attends, déjà, le seul indice que tu me donnes, c'est que c'est un politique qui a des emmerdes avec la justice. Alors, excuse-moi, mais avoir des emmerdes avec la justice, ça fait apparemment partie du job, donc autant pas donner d'indice dans ce cas-là.
Oui, bon, ok, je te l'accorde. Désolé, c'était un peu difficile.
Voilà.
Enfin bref, passons. Pour en revenir à Ségolène Royal, on en parle aujourd'hui, car elle a fait ces derniers jours des boulettes. Et quand je dis boulettes, je parle pas couscous. Hein.
Oh, non,
je veux juste dire par là qu'elle a encore dit n'importe quoi. Bon, j'ai pas plus de légitimité qu'un autre, mais c'est pour toutes ces raisons que je lui attribue au sein de mon royaume de la loose le titre de princesse de la bourde.
Pas mal.
Bah oui, parce que notre Ségolène, elle en a dit des conneries par le passé.
Tu nous en rappelles quelques-unes ?
En 2006, elle dit dans un discours que la Chine a une justice qui va plus vite que celle de la France et qu'il faudrait qu'on arrête de donner des leçons. Alors peut-être, mais n'oublions pas que la Chine n'est pas non plus le pays à prendre comme exemple en termes de justice et de respect des droits de l'homme. La Chine qui est d'ailleurs, en 2018, d'après Amnesty International, le pays où l'on utilise et applique le plus la peine de mort. Cette déclaration sur la justice chinoise avait fait beaucoup de bruit dans le monde politique et dans les médias. Faisons un bond en 2015 où là, Ségolène nous a fait une bourde un petit peu plus légère, une petite bourdinette. Ça s'est passé sur Twitter, c'était pendant la COP21. Ségolène a tweeté en direction de Barack Obama, président de l'époque. Alors attention, je vais parler en anglais. Congratulations to President Obama for his engagement before Paris, #COP21. Ségolène, qui voulait féliciter Obama pour son engagement écologique, a donc utilisé le mot engagement. Sauf que ce mot signifie dans le langage courant fiançailles en anglais. Elle a donc en réalité félicité Obama pour ses fiançailles. Un anglais approximatif qui a surtout fait bien marrer les réseaux sociaux. Il y a d'autres boulettes de notre amie Ségo, mais je vous en parle aujourd'hui parce qu'elle a réitéré l'exploit de dire et faire n'importe quoi. Elle nous a fait deux bourdes pour le prix d'une à quelques jours d'intervalle.
Merde, qu'est-ce qu'elle a fait encore ?
Mi-septembre, Ségolène a été épinglée notamment par Libération et Quotidien concernant sa non-présence aux réunions du Conseil de l'Arctique. Je rappelle qu'elle est ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique et qu'elle se doit donc d'assister à ces réunions car elle y représente la France. Depuis qu'elle est à ce poste, il y a eu 6 réunions. Elle clame haut et fort y être allée. Sauf que sur les feuilles de présence officielles, elle n'apparaît nulle part. Oups, Ségo. Démasqué. Allez, encore un petit dernier pour la route. Elle justifie parfois ne pas se déplacer trop pour préserver son bilan carbone. C'est une bonne idée. Sauf que Ségolène est un poil contradictoire parce que le 12 juillet 2018, elle est allée en Islande à l'inauguration du Lapérouse, un bateau de croisière de luxe. Eh bien, Ségolène s'est dit que c'était une chouette idée d'y aller et surtout une chouette idée de faire l'aller-retour dans la journée en avion privé, spécialement affrété pour elle. Paris-Reykjavik à 7h45 du matin et Reykjavik-Paris à 22h45 le soir même. Donc, si j'ai bien compris, les réunions pour le cercle de l'Arctique, non. L'inauguration d'un bateau de croisière de luxe, oui. Enfin bref, Ségolène est, d'après un récent sondage IFOP, la politique qui représenterait le mieux la gauche pour 43% des interrogés. La princesse de la bourde pourrait donc, à terme, redevenir la reine de la gauche.
Mais merci Dimitri, on retrouve ton beau royaume qui nous fait pleurer au rire. Je ne sais même plus, on te retrouve la semaine prochaine, merci. Et donc je me tourne à nouveau face à notre invité Pascal Onvaux, donc auteur de Chute Libre. Alors Alexandre Dupertuis, lui, n'est pas allé ni en bateau ni en avion à Reykjavik. Bon, par contre, il est quand même allé aux États-Unis, notamment pour son post-doctorat. Mais il le dit qu'au départ, s'il y va, on pourrait croire c'est parce que c'est prestigieux, et d'ailleurs c'est vrai, il va dans un très beau labo à Berkeley, mais il dit que c'est pour s'occuper l'esprit, ne pas penser au passé. Et j'ai l'impression que ça a été souvent le moteur, l'accélérateur parfois même de certaines étapes très importantes de sa carrière. Mais qu'est-ce qu'il essaye de fuir? À quoi il essaye de ne pas penser?
Alors ça, question difficile. En fait, avant son post-doctorat, il a vécu dans sa vie privée des expériences, on va dire, douloureuses,
ouais.
Notamment donc, en DEA et même avant, durant ses études de licence. Comme beaucoup d'étudiants, il a connu des étudiantes. Mmh. À chaque fois, donc, il y a eu leur liaison s'est arrêtée. La liaison s'est arrêtée par un accident ou il y a eu des suicides aussi. Il a rencontré beaucoup de femmes qui malheureusement se sont suicidées pour des raisons ou d'autres, non expliquées dans le livre, mais qui avaient des problèmes intérieurs, voilà. Et du coup, ça l'a fortement marqué. Et pendant la thèse de doctorat, bon, il s'est reconcentré sur son travail de thèse donc pendant 3 ans à fond. Et il a voulu souffler, partir un peu pour quitter toutes ses habitudes,
mettre de la distance.
Voilà, mettre de la distance un peu avec ce qu'il avait vécu avant en France. Et du coup, il est parti assez loin, les États-Unis. Donc c'est comme destination pour son post-doctorat. Voilà.
Comme on l'a dit juste avant la pause musicale, tout à l'heure, vous ne l'épargnez pas, on va encore creuser un petit peu tout ça. Vous aviez envie justement qu'il traverse des événements difficiles, puis ce tout et rien, la déchéance brutale, ces choses-là, c'est ce que vous aviez envie d'aller explorer ?
Oui, c'est quelque chose que je voulais. Je voulais que ce personnage, donc Alexandre Dupertuis, soit imprégné dès le début, donc dès ses années étudiantes, par où commence le roman. Et c'est quelque chose donc qui ne le quittera pas tout au long de sa vie. Il va être confronté à un tas de malheurs, sans rentrer dans le détail, mais diverses expériences douloureuses, quoi.
Comment vous les avez pensées? D'ailleurs, elles sont venues au fur et à mesure de l'écriture. Vous aviez déjà des idées, en tout cas peut-être déjà ce qu'il allait atteindre comme succès. Où c'est venu à l'écriture?
Alors, en fait, dès le début, donc vers 2006, quand j'ai eu l'idée du roman, que j'ai commencé à écrire les premières lignes, dès le début, il fallait qu'il gravisse des échelons, qu'il aille le plus haut possible.
Qu'il
et puis, en physique, c'est le prix Nobel, comme est tombé aujourd'hui, pour 3 chercheurs. Et du coup, et aussi une carrière politique, il fait aussi une carrière politique, il est conseiller auprès du ministre, de la recherche, etc. Et lui-même va s'engager un peu en politique, où il va connaître un certain succès. Il y aura il va faire un rapport sur la recherche, qui sera le fameux rapport Dupertuis dans le livre.
Sur l'évaluation de la recherche.
Et là, il passe dans les médias, radio, télé, les 20h, les journaux de 20h, etc. Donc, il atteint vraiment une notoriété aussi, quasi grand public.
Et assez jeune, finalement, dans ce genre de carrière.
Voilà, assez jeune, moins de 50 ans, entre un peu plus de 40. Et voilà, et tout ça, à un moment, il y a une sorte de tourbillon, il est pris dans un tourbillon, et en même temps, il n'oublie pas d'aller quand même continuer de suivre ses thésards, la recherche et tout. Et à un moment, il débloque complètement, il perd la boule, on pourrait dire.
On arrive, ça s'explique aussi, vu ce qu'il traverse, c'est pas évident. Vous parlez à l'instant des thésards, justement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il est finalement assez seul. Enfin, il donne l'impression de peu se confier. Il avait un meilleur ami, mais qui semble ne pas forcément le suivre. Enfin, on ne le retrouve pas plus tard. Ses amours, malheureusement, ne se prolongent pas. Il n'a personne qui l'accompagne tout au long de sa vie, de la partie qu'il nous relate, finalement. Mais il a quand même, malgré cette solitude, il a un plaisir profond à partager avec ses doctorants, partager aussi avec les chercheurs invités.
C'est bien vrai. Alors lui-même, il est assez solitaire, c'est vrai. dans sa vie privée, par exemple, il a vécu quelques mois, voire quelques années, mais pas plus de 2-3 années, avec un... Donc ça, c'est quand il a vers la quarantaine, avec une femme chercheuse aussi. Un autre coup, c'était une femme critique d'art. Mais entre ces périodes donc, de vie commune, donc avec quelqu'un, un partage de tous les jours, c'est vrai que la plupart du temps, il est seul, il vit seul. Il se sent seul, il est solitaire, il est plongé dans une solitude et, à contrario, du coup, il va aller vers les autres, notamment dans son entourage professionnel, que ce soit dans le monde de la recherche, au ministère ou ailleurs. Et là, il va être bienveillant, en fait, avec les autres. Et voilà, peut-être qu'inconsciemment, il essaye de compléter, de contrebalancer voilà, sa nature solitaire par ses actes. Voilà, envers les autres.
En tout cas, la recherche, bon, par moments, on le voit, c'est un étourdissement pour lui, ça lui permet de... Je pense qu'il y a un aller-retour entre vie privée, vie professionnelle à chaque fois. Et donc, la recherche semble lui... ça le fait tenir, il le dit même à un moment. Il est brillant, mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'il est passionné ? Parfois, on se demande, est-ce qu'il est passionné par son domaine de recherche ?
Alors, ça, c'est une bonne question.
Il n'est pas là pour nous répondre.
Voilà, en fait, on a l'impression... Bon, je pense qu'il aime quand même faire de la recherche et les travaux de recherche. Mais c'est vrai qu'il a été pris par un tourbillon. Il a été repéré très tôt comme un brillant étudiant. Donc, tout le monde voulait l'avoir en stage de DEA à l'époque, master aujourd'hui. Puis thèse de doctorat, après les gens voulaient l'avoir comme chercheur CNRS, sur un poste CNRS, etc. Donc il a été pris dans un tourbillon au niveau du monde de la recherche, et en effet, il y est allé, quoi. Il a foncé dedans, et justement, peut-être qu'il est allé un peu trop vite, et il a passé tant d'années à tourbillonner dans ce monde, qu'à un moment, comme je disais tout à l'heure, vers la fin de sa vie, après le Nobel, après l'ascension fulgurante, là, même au niveau politique, donc il va chuter, justement, d'où le nom du livre.
Oui. Chute libre, c'est un phénomène de physique, c'est ça ? Une étude
La chute libre, en fait, c'est la chute d'un corps. Alors, strictement, c'est dans le vide. Donc, vous prenez un corps... un livre, par exemple, vous lâchez le livre, là, on va le lâcher dans l'air, mais comme il y a très peu de résistance que l'air exerce sur le livre, c'est comme s'il chutait et qu'il était soumis uniquement à son propre poids. C'est ça, la chute libre physique.
La symbolique derrière, c'est quoi ? C'est qu'on est responsable de son propre malheur ? C'est que lui a été tout seul dans sa chute ? C'est quoi ?
Alors, je pense que, en fait, une des conclusions serait qu'on n'est pas maître de son destin, parce que lui, il lui arrive plein de choses dans le livre, divers domaines, privés, professionnels, etc. Et on a l'impression qu'à chaque fois, il ne le contrôle pas. Que ce soit, comme je disais, par le suicide de l'une des femmes qu'il aime, par un autre événement qui va arriver subitement. Enfin, il subit plutôt qu'il n'est acteur de son propre destin. Ouais.
D'où ce titre. Et puis quand on est physicien, je pense qu'on ne se refait pas, on en parlera éventuellement, peut-être que vous irez explorer d'autres domaines. En tout cas, son récit commence aux études supérieures. Un petit peu le DA, on l'a dit, surtout, le livre s'ouvre sur sa soutenance de thèse, où il est brillant, il est remarqué, et comme vous le disiez, on l'appelle tout de suite à aller plus loin. Et pourquoi, finalement, on n'évoque pas son enfance ? Ses parents sont à peine évoqués. Pourquoi ? Parce que pour vous, c'est sa vie d'homme qui commence là ?
Alors justement, il y a un collègue chercheur qui m'avait dit qu'en fait, le héros du livre, donc Alexandre Dupertuis, on sait très peu de choses de lui, finalement, de ses années pré-étudiantes, donc en effet, l'enfance, adolescence, on ne sait rien en fait. Il n'y a vraiment rien d'écrit dans le livre là-dessus. Et là, ça laisse justement une part de mystère. Voilà, le lecteur peut imaginer ce qu'il a vécu avant ces brillantes années étudiantes. Voilà, c'est volontaire.
C'était peut-être aussi, ça permet un focus sur ces années en particulier, sur cette trajectoire à ce moment-là.
Voilà. Et notamment, j'ai insisté, il y a peut-être quasiment un chapitre entier, quand il y fait son post-doc aux États-Unis. Donc juste après sa soutenance de thèse, donc il a, admettons, un peu plus de 26 ans à ce moment-là. Et là, il a une année cruciale aux États-Unis, donc où il va vivre un amour fou avec une jeune étudiante américaine, mais dont l'ancien petit ami de cette étudiante va se suicider. Enfin, il y a tout un truc. Et ça, ça va le marquer vraiment. Et ça va revenir dans le livre, j'en dis pas plus.
Bien mais sûr,
c'est un chapitre crucial. Voilà, donc c'était plutôt ces années-là. Voilà, ça partait des années d'étudiants.
Et qui vont déterminer toute la suite.
Voilà.
Plus
qu'une même enfance. Si, bien sûr, l'enfance, l'adolescence joue un rôle clé. Mais là, bon, au lecteur d'imaginer quel adolescent ou quel enfant il a pu être.
Pascal Onvaux, je vous propose qu'on marque notre deuxième pause musicale avant de poursuivre notre exploration de Chute libre. Cette fois-ci, Dimitri nous a sélectionné Princesse Nokia. Le titre est un peu à rallonge, Sugar Honey Iced Tea.
These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care, unlike me? You must have time on your hands, cause all that time you been hating. I know you mad that I'm famous, I know you mad that I made it. With all the time you been hating, you could have turned into something. Sometimes it works out for people, sometimes it really just doesn't. Don't do this shit to be famous. Cause I love it. I shot an arrow, said fuck it. I took a chance, came from nothing. You have to go for it, one, and you have to rise up above it. If you go unexpected, well, girl, I think that you bugging. How you want what I have? You ain't working yourself. That toxic energy shit ain't really good for your health. I think you need better goals, cause oh my god, you seem lost. You talking shit about my music, but what the fuck have you dropped? Now, what the fuck have you done? Accolades, you have none. Your lazy ways get you none. I go and pray for you, hun. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care? Unlikely. I'm on the train, throwing soup. The racist men make a threat. I'm not a gangster, but I could tell you I love to throw hands. I'm racist, big as a scum. I don't like drama, it's dumb. I don't be fighting no women, I don't be toting no guns. I hate domestic abusers, in fact, they all make me sick. This duper one of my friend, I push him straight in his shit. I got a real code of honor that I take seriously. If Colin Kaep was a woman, then I'd be dead on one knee. My revolution is so full, I'm healing kids with my hands. I'm talking love in my people, not fighting bitches for bangs. I got no hate in my heart, I think it's funny I rap. I did not bang in the streets, and I did not trap in the trap. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care, unlike me?
Dernière partie de l'Oreille au poste avec Princesse Nokia pour nous lancer Pascal Onvaux que je reçois aujourd'hui et moi. Pascal Onvaux, auteur donc de Chute libre, premier roman, mais on l'a compris, pas première expérience littéraire. Alors Pascal, ce roman se passe dans le milieu de la recherche, on l'a compris, et donc il nous permet finalement d'explorer alors un peu la constitution des jurys, le CNRS, la recherche en elle-même, les congrès aussi, c'est des moments intense, hein, visiblement les congrès, les chercheurs invités. Mais du coup, j'ai envie de demander quelle est la part réelle, quelle est la part peut-être un peu développée ou surdéveloppée, enfin un petit peu exagérée.
Alors en général, donc ce soit les congrès,
ça a l'air d'être folklore.
Voilà, tout ce que vous avez cité, voilà, oui. Il se passe pas mal de choses. Et bon, en général, c'est assez réaliste. Et de temps en temps, j'évoque des fois quelques expériences un peu inédites, enfin un peu qu'on trouve plutôt rarement, en effet. Mais que ce soit les concours CNRS, concours d'anciens chercheurs, donc j'essaye aussi de décrire un peu, parce que moi-même j'ai participé un peu aux membres du jury, enfin dans ces concours-là. Donc je vois comment ça se passe. Et donc j'ai essayé de retranscrire en fond comme ça une toile réaliste de ces concours-là de recrutement, mais bien sûr j'instille quelques originalités qui sont des fois un peu exagérées. Ça retrace pas le vrai vécu de ces concours-là et tout, quoi.
Et alors, bah d'ailleurs, à un moment, vous l'avez dit, hein, il va y avoir la loi du Pertuis. Et alors ça, du coup, alors c'est du domaine du réel ou plutôt de l'idéal? Ce souhait que l'évaluation de la recherche passe peut-être pas comme on voudrait nous l'imposer actuellement?
Oui, oui, bah ça, on parle beaucoup en ce moment de l'évaluation de la recherche. Le gouvernement Macron a promis des choses, alors en bien ou en mal, bon, c'est pas moi de le juger ici. Mais c'est vrai que voilà, ça. Et on en parlait avant, sur la présidence d'avant. Et du coup, bon, ça. Voilà, Alors, on parle du rapport du Pertuis, mais en fait, on ne dit pas vraiment ce qu'il fait, quoi.
Oui.
Donc, voilà,
mais
ça reste.
A priori, ces propositions.
Mais c'est des propositions de réformer la recherche actuelle, le recrutement, justement, sur quelle base. Voilà, essayer de faire des choses nouvelles dans ce domaine, ce qui n'est pas évident, parce que c'est toujours difficile à bouger ce type de concours ou d'autres choses concernant le monde de la recherche.
Ça va l'amener aussi par moment, il réalise à un moment, il se dit que finalement, il n'est peut-être pas raccord avec ses idéaux de jeunesse, qu'il était profondément. Il se sent presque hypocrite, et notamment quand il va commencer à fréquenter les milieux, quand il va accepter un certain prix, etc.
Voilà. Bah, en fait, c'était un étudiant passionné. Il a toujours vécu avec passion.
Il était entier.
Il était entier, que ce soit des lectures, des amours, des moments vécus. C'était toujours intense durant sa période étudiante et post-doctorante. Et au début, on peut même dire au début de sa carrière professionnelle. Et après, bah malheureusement, je crois que c'est le mot malheureusement, il est pris par ses tâches, et puis il reçoit le prix Nobel de physique, donc après il faut assumer derrière. Après, en effet, il rejoint le monde politique, conseiller auprès du ministre, etc. Il fait ce fameux rapport, enfin bref, il est pris dans des responsabilités et dans des tâches pour lesquelles, en effet, il a dû faire pas mal de compromis. Et un moment, il tombe dans une pseudo ou une dépression, on ne sait pas trop, mais enfin dans un état dépressif, où il réfléchit justement, il se revoit 20 ans en arrière en disant « mais qu'est-ce que je suis devenu ? Ce n'est pas moi, qu'est-ce que je suis devenu ?» Enfin, il a trahi quand même certains de ses idéaux, c'est clair.
Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit tous ? On ne peut pas vivre dans un idéal toute
sa vie.
On ne bouge pas.
Oui, malheureusement, c'est le cas. Et là, j'ai exagéré certains passages pour bien montrer ce contraste entre ces années de jeunesse et ensuite. Mais voilà, en effet, malheureusement, est-ce qu'on est obligé d'accéder à ce monde où soit dans le cabinet du ministère, en faisant tant de compromis, etc. Enfin, bon,
ouais.
La réalité, malheureusement, le montre, oui.
Mais aussi, c'est parfois là qu'on peut quand même, malgré tout, faire un peu changer
les choses. C'est pour ça qu'il est resté, parce qu'il a hésité des fois à démissionner ou partir de tout ça. Et il a continué parce qu'il a dit, c'est quand même de l'intérieur, je vais essayer de faire bouger les choses. Voilà.
Question, un petit détour. Donc au départ, j'ai dit, il travaille plutôt sur un certain domaine. Et puis hop, rapidement, aux États-Unis et tout, il va être amené à travailler sur ce qu'il va préparer, l'ordinateur quantique. Et je me suis dit, pourquoi déjà l'avoir fait changer de domaine ? Est-ce que c'est plus attirant, plus familier aussi peut-être au lecteur ? Parce que c'est assez à la mode, j'allais dire.
Alors,
on en parle beaucoup.
Oui, donc ces travaux de recherche se resituent pour les connaisseurs dans tout ce qui est information quantique et avec comme application l'ordinateur quantique. Alors, le roman se passe en 2020, donc on y est bientôt.
Bah oui.
Bien sûr, l'ordinateur quantique n'existera pas encore. Si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts par pas mal de collègues. Mais donc là, j'ai un peu anticipé, on va dire, la mise au point d'un ordinateur quantique qui n'existe même pas encore dans le livre. C'est encore des travaux de recherche durant toutes ces années professionnelles le concernant. Voilà. Mais en effet, c'est quelque chose, j'en parle aux étudiants, les étudiants nous en parlent, ou des plus jeunes, les lycéens, et c'est vrai que ça les fait rêver, quoi, cette histoire d'ordinateur quantique. Voilà, donc j'ai repris ça comme trame de ces travaux de recherche, quoi.
C'est ce qu'on l'a dit, vous évoquiez quand même ce milieu, certains temps, certaines façons de travailler, mais sans perdre le lecteur. Vous avez fait attention à ça, à ne pas devenir trop spécialiste ?
Voilà, oui, ça c'est dès le début, c'est vraiment un roman, c'est pas un livre sur la science, sur la physique ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas d'équation dans ce roman, voilà, il n'y a pas de formule compliquée, non, ça se lit à nouveau, je dis, c'est le monde de la physique, de la recherche en physique, mais ça aurait pu être le monde de la recherche en lettres anciennes, ou voilà, mais pour ce premier roman, j'ai choisi un monde que je connaissais, bien sûr.
Et alors les femmes, on leur a compris durant tout ça, ponctue, et le pauvre, hein, ça se passe pas forcément bien. Mais alors justement, ces relations qui sont pas évidentes aux femmes, c'est quoi ? C'est un choix de sa part ? C'est quelque chose ? Il craint l'engagement ? Il a été très marqué par un premier amour perdu ? Ou il a pas envie de construire, pas envie de s'engager ? Comment alors, vous le sentez ?
En fait, il a un rapport très complexe aux femmes. Donc dans ses jeunes années étudiantes, il est... Comme on le disait, il est passionné, il vit un moment intense avec, par exemple, une jeune étudiante de son âge. Et donc, il y a des poèmes qui vont... Il va écrire des poèmes pour sa bien-aimée, etc. Enfin, c'est très romantique. Et puis, il y a des fois des passages, on le voit bon, plus tard, quand il a vers 40 ans ou par là, qu'il est reconnu professionnellement, il passe peut-être auprès du lecteur pour un dragueur acharné,
ouais.
Pour pas employer d'autres mots. Mais voilà, donc il est très complexe. Il est à la fois romantique, mais il a des fois, c'est vrai, enfin, il y a des périodes de sa vie où il considère peut-être la femme, peut-être plus des fois comme un objet que vraiment comme la femme, comme il la considérait avant dans sa jeunesse, quoi.
Il est très complexe.
Et à part, deux femmes, avec lesquels il est resté peut-être 2-3 années, mais bon, toute sa vie, donc c'est pas grand-chose. Et il n'a jamais su vraiment rester très longtemps avec quelqu'un, vivre très longtemps avec quelqu'un.
Et puis lui-même a l'air ambivalent parfois, parce que c'est la séduction, il le dit lui-même, ça peut être avant tout être séduit par un physique, mais quand même, quand il en rencontre une qui est et belle et brillante, ah, c'est quand même pas mal, et il a l'air lui-même de naviguer sans savoir en fait ce qui va faire son bonheur. Il va pas forcément le trouver, on ne sait pas.
Voilà. Non, ça c'est un de ces mystères, oui, entier. Ouais.
En tout cas aussi, pour finir, par moments aussi, il peut sembler orgueilleux suffisant, mais on a l'impression qu'il y a aussi un certain détachement de sa part. Est-ce qu'il a même pas un regard presque désabusé là-dessus ? Finalement, qu'on le perçoit comme ci, comme ça, mais lui, il se laisse pas avoir par les paillettes ou...
Oui, c'est vrai. Ben, comme il vit ça de l'intérieur, donc prix Nobel, monde politique, tout ça, il joue, on a l'impression qu'il peut jouer lui-même, s'en rend compte justement, il joue un faux personnage finalement. C'est pas lui-même, c'est pas lui au plus profond, quoi.
Et justement, lui, le plus profond, le découvre dans Chute libre, ce récit intérieur finalement, que j'invite nos auditeurs à lire. On n'a pas dit où il était paru, où on peut le trouver, Pascal Onvaux.
Alors, on peut le trouver sur le site d'Amazon. Bon, oui. Je ne sais pas si on doit faire de la publicité.
Allez, c'est fait.
Et voilà, il y a une plateforme d'auto-édition et on tape Pascal Onvaux ou Onvaux Chute libre et on trouve le livre et on peut se le procurer.
Ouais. Eh ben merci beaucoup Pascal Onvaux pour cette interview. Merci aussi à Maëlle et Dimitri pour les chroniques, la réalisation. La semaine prochaine, on recevra Christian Bon pour parler des écrans de l'aventure. Mais tout de suite, c'est les grands agendas. Bonne soirée sur le 92.2.
L'ABC présente Mélanie de Biasio le mardi 15 octobre à 20h au Théâtre des Feuillants. Mélanie de Biasio a au moins 3 qualités exceptionnelles. Elle est chanteuse, flûtiste et, ce qui ne gâche rien, elle nous vient du plat pays. Bien plus que la caresse du vent de Knokke-Lezout, ces morceaux sont ancrés dans l'émotion de l'instant et ils touchent l'auditeur au plus intime. Mélanie de Biasio oscille entre whisper, jazz, blues, trip-hop et pop et viendra défendre No Deal, son second album sur la scène des Feuillants. Mélanie de Biasio le mardi 15 octobre à 20h au Théâtre des Feuillants. Infos et billetterie sur abcdijon.org.
J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire?
Je n'en sais rien, alors faisons quelque
chose. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas quoi faire!
Oh, bonjour.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Campus, je suis avec Garance, salut Garance.
Salut Dimitri.
Nous sommes le mardi 8 octobre, il est 18h45 et c'est l'heure de quoi?
C'est l'heure des grands agendas.
Les grands agendas, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 18h45. On est là pour vous donner des infos sur les événements dijonnais du soir et du lendemain. On va donc parler ce soir de l'actu de ce mardi soir. Qui sera pas très très rempli.
Assez rapide.
Il n'y a pas un milliard de choses à faire ce soir, mais on vous en parle quand même. On fera une petite pause musicale ensuite, on parlera de l'actu de demain, et si on a le temps, on parlera un petit peu de la fête de la science. Du coup, vous avez le programme.
Radio Campus 92.2.
On commence avec toi Garance pour ce soir avec le festival Saiten no Hantsuki dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, notamment dans le campus midi étudiant que je vous invite à réécouter sur radiodijoncampus.com.
Oui, on en reparle du coup ce soir parce qu'il y a un petit événement d'organisé. Donc je rappelle juste au passage que c'est la 15e édition du festival autour de la culture asiatique, du manga et de l'animation. Et ce soir, ça a commencé à 18h mais c'est jusqu'à 23h30, donc vous pouvez encore y aller. Au Cafenco, 27 rue Jean-Jacques Rousseau, l'ESN INSI Dijon propose une rencontre pour venir échanger avec des étudiants internationaux sur leur culture ou pratiquer la langue que vous voulez apprendre. C'est donc au Cafenco, ça commence à 18h, événement gratuit mais avec obligation d'au moins une consommation sur place comme le veut la coutume.
Et oui. C'est la condition, il faut la respecter.
Bah oui. Du coup, je crois qu'on...
Alors vous allez dire, on fait déjà une pause. Mais c'est parce qu'il y a vraiment que ça qui nous a semblé pertinent pour ce soir. Donc du coup, on va se faire une petite pause.
On revient pour demain soir, vous inquiétez pas, il y aura des choses à dire.
L'émission n'est pas terminée, on vient quand même juste de commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre Izan avec le titre Waves. Alors on se met Izan, pourquoi? Parce que le duo sera en concert au Consortium demain. On vous en parle du coup juste après la petite pause musicale. À tout de suite. Vous êtes de retour dans les grands agendas sur Radio Dijon Campus. On vient d'écouter Izan avec Waves. Je suis toujours avec Garance, si elle ne s'est pas perdue en chemin. Est-ce que tu es toujours là ?
Je suis toujours là, oui.
Les grands agendas, votre rendez-vous quotidien pour savoir ce que vous allez faire le soir et le lendemain. Donc on a balayé très très rapidement l'actu de mardi, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose et qu'on commence à rentrer dans une période où il y a de moins en moins d'événements, surtout en début de semaine. Mais vous inquiétez pas, le mercredi, je suis déjà à la fin de la semaine, moi. Le mercredi est beaucoup plus fourni. On vient donc d'écouter Izan avec Waves. On vous en parle parce que le collectif Sabotage présente ce soir ce duo Izan au Consortium. Izan, ils sont britanniques et ils font de l'électronica, qui est de la musique électronique contemporaine. Donc vous entendez ça encore en fond derrière moi, parce que la chanson dure longtemps. 20 ans de carrière, 10 albums à leur actif, le duo a de l'expérience et ça se sent. Un critique britannique a défini leur art comme étant de la musique compliquée, facile à écouter. Leur nouveau disque sortira d'ailleurs le 18 octobre. Izan, proposé par Sabotage, c'est au Consortium demain soir à 19h. Le prix est libre et pour info, les expos du Consortium seront ouvertes jusqu'à 20h. On continue toujours sur le mercredi. Et on continue toujours sur le festival Saiten no Hantsuki.
Et oui, on revient à ce festival demain de 14h à 18h, une petite séance jeux vidéo organisée à la médiathèque Champollion et la bibliothèque Mansart qui vous propose donc d'animer votre mercredi après-midi avec des jeux et plein de fun. Ouh. En solo, en famille ou entre amis. Et aussi, toujours dans le cadre de ce même festival, est organisé par le Royaume des Duellistes un tournoi Yu-Gi-Oh! Tu sais, c'était les cartes,
oui.
Là.
Oui, je ouais. Vois très très bien. Bon. J'ai eu une enfance. <Je l'ai dit. rire>
Ce sera au restaurant universitaire Lamartine, 9 rue Savary à Dijon. À gagner, peut-être que tu connais toi, Dimitri, moi je ne connais pas, un magnifique dragon épée Borel. Bon, alors si vous...
C'est bon. Ça a l'air super.
Voilà, non mais sûrement que plein de gens connaissent et aiment ça, donc oui. Si vous voulez aller jouer aux cartes, eh ben, venez affronter les duellistes de Dijon pour remporter un des prix, pas de frais d'entrée, préinscription et info pour, en contactant le Royaume des Duellistes, ils ont une page Facebook. Ou en venant d'ailleurs directement demain soir de 19h à 23h au restaurant Lamartine. Voilà pour le Saiten Dijon. Dimitri, toi, tu nous parles d'une exposition.
Oui, on est en octobre et en octobre, il y a Octobre Rose. Octobre Rose, c'est une campagne d'un mois tous les ans pour lutter contre le cancer du sein. À Dijon et aux alentours, tout un tas d'animations sont proposées autour de cette thématique. Et il y a notamment une expo photo qui s'appelle Vivre avec, qui est en place depuis le 1er octobre et qui s'achève le 18 à la MJC des Grésilles. Et demain, c'est le vernissage de l'expo ainsi que le pot de l'amitié. Cette expo, elle met en avant des femmes de 28 à 78 ans qui sont touchées par le cancer. Tout ceci est bien évidemment gratuit. Vous pourrez retrouver avant tout ça à 15h. Un atelier sur le dépistage du cancer du sein et sur les facteurs de prévention. D'autres animations sont organisées les week-ends d'octobre pour cette manifestation d'Octobre Rose, mais on aura largement l'occasion d'en reparler. En clair, à 15h, un atelier sur le dépistage du cancer du sein et à 18h30, le vernissage de l'expo Vivre avec un verre de l'amitié en prime. Tout ça à la MJC des Grésilles et c'est gratuit. On enchaîne avec un spectacle.
Oui, un spectacle au Bistrot de la Seine demain à 15h et ensuite un deuxième à 17h pour adultes mais aussi pour enfants qui s'appelle La Befana. Spectacle de 45 minutes par la compagnie du Colibri, c'est dès 5 ans. Je vais vous lire un peu le résumé pour vous donner une idée. Venez découvrir l'univers de la Befana, sorcière d'Italie. Leopoldo et Luna, en accrochant leurs chaussettes sur la cheminée, sont sûrs que la Befana leur apportera caramel et bonbons. Et chocolat, pardon. Mais le lendemain, c'est moi qui... Voilà.
Si t'as envie de bonbons,
oui,
c'est pour ça.
Oui, je crois. Le lendemain, il n'y a que du charbon. Bien décidé à éclaircir ce mystère, il décide de partir à sa recherche. théâtre et ombre, c'est ce qui était spécifié sur Jondi, donc je suppose qu'il y aura des ombres chinoises.
Bien vu, Garance.
Et oui, je suis bien maligne.
Ça tourne là-dedans, hein.
C'est 8,50 pour les adultes et 6,50 pour les enfants.
Et donc, tu nous parles d'Italie, et on va continuer à parler d'Italie, et plus particulièrement Sicile, avec conférence.
Sicile.
Et je vais te laisser prononcer correctement le nom de cette conférence.
Merci d'annoncer cette future catastrophe linguistique. Bon, alors la conférence, c'est la Villa del Casale de Piazza Armerina en Sicile.
Mais en fait, t'es bilingue.
Je ne répondrai pas à cette provocation.
Bon, et de quoi ça parle, cette
conférence ?
C'est
demain à 18h. Organisée par l'association Les Amis de Dante, qui invite Chiara Martini, archéologue. Et donc, je vais lire un peu ce qui va se passer dans cette conférence. Au IIIe siècle de notre ère, un aristocrate a bâti une fabuleuse villa en Sicile, donc cette fameuse Piazza Armerina, monument qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Occupé jusqu'au début du XIIe siècle, puis il disparaît ensuite sous un glissement de terrain. Mais ça reste un édifice riche de 3500 mètres carrés de mosaïques figurées, qui reste un des plus beaux exemples de demeures privées de la fin de l'Empire romain. J'ai pas dit où c'était, c'est demain à 18h sur le campus Sciences Po, avenue Victor Hugo, à Dijon.
Très bien, et on va continuer avec la vapeur. On parle d'un événement qui s'appelle la frite en classe. Alors la frite, en plus d'être cette succulente nourriture que nous aimons tous, là en l'occurrence c'est un instrument électronique collectif d'expérimentation sonore. Alors c'est comme ça qu'il est décrit. Cet événement, il s'adresse aux enseignants du premier et du second degré, et le but c'est de se former à cet outil pour pouvoir l'utiliser ensuite en classe avec des enfants. Donc cet événement s'adresse à nos amis profs, et c'est donc la frite en classe à la vapeur. C'est de 13h30 à 17h30 demain. C'est gratuit, mais sur réservation, attention, et je le répète une dernière fois, c'est destiné aux enseignants. On va terminer le mercredi en parlant crème de cassis.
Et oui, demain une petite visite à l'entreprise Le Gel La Goutte à 14h30, rue Étienne-Dolay à Dijon. Je crois que c'est pas très loin d'IKEA, pour situer un peu.
Chacun ses références.
J'ai regardé en fait sur Google Maps. Donc, Le Gel à Goutte, créateur de la crème de cassis depuis 1841, qui vous ouvre ses portes pour découvrir les secrets d'élaboration. Une visite à la fois pédagogique et gourmande, ouverte à tous. C'est à 5 euros, réservez vos places en ligne.
Très bien, et ben on a terminé pour le mercredi. On va se faire un rapide point sur la fête de la science. Un petit bonus, il nous reste une petite minute. Alors la fête de la science, ça a commencé le week-end dernier. Au programme, il y avait des observations du soleil, des lancements d'expos, des conférences, des séances au planétarium, etc. Si vous n'y êtes pas allé, pas de panique, ça continue. Alors sortez vos agendas, c'est le moment. Jeudi à 14h, une conférence sur le climat et les énergies intitulée « Où va-t-on ? » Vendredi à 16h, des portes ouvertes, raconter l'électricité à l'école Chevreul. Et ce week-end, vous pourrez aller au festival des sports. Alors quand on parle des sports, on parle champignons,
sport, oui.
S-P-O-R-E-S. Donc ce n'est pas le sport. Après, on fait du sport en ramassant les champignons, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le sujet du festival. Si vous êtes impatient de parler science, une expo est en place depuis samedi jusqu'au 3 novembre. Elle s'intitule « Sur les traces du mammouth » et on aura l'occasion d'en reparler. C'est à la Grande Orangerie, dans le parc de l'Arquebuse. C'est l'heure de la fin. On se retrouve demain et on se quitte avec quoi, Garance ?
On se quitte avec quoi ? On retrouve à 19h, là, c'est Fait divers, l'émission.
Fait divers, eh ben, très très bien. Eh ben, on se retrouve, nous, demain, à 18h45.
Salut.
Ok, qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, bon.
En partenariat avec jondi.fr.
Je me perds dans tes chemins, parcourant ton souvenir. Tu m'accompagnes, encore ivre des baisers que je te prie. Tu m'accompagnes, je me traîne dans ton passé, en vieux chien abandonné. Je vagabonde. Je me laisse toujours porter par la lumière de ton regard. Je vagabonde. Si j'aimais la vie autant que je t'aime toi, respirer serait facile sans ton amour. J'attends les jours de mon absence pour comprendre la raison. Pourquoi